presque tous les peuples ou groupes ethniques sont identifiés à quelque chose ou à quelqu'un qui leur appartient en propre. Ce peut être un type d'architecture comme les grandes pyramides pour les Égyptiens, une langue très particulière, une ville comme la Mecque pour les musulmans, ou une personne comme le Bouddha, ou encore la Tour Eiffel pour les Français. Les Israélites, ou plus exactement, les Hébreux, ont pour ancêtre Abraham, comme les Arabes d'ailleurs. Par contre, c'est le seul peuple à qui l'Éternel a donné la loi de Moïse. Voilà ce qui les différencie plus que n'importe quoi d'autre des autres groupes ethniques. Cependant, au cours de leur histoire mouvementée, ils ne l'ont pas souvent mise en pratique, ce qui leur a valu un certain nombre de jugements divins particulièrement sévères. Après un exil de 70 ans en Babylonie, une colonie juive est à nouveau installée dans Juda, au sud de la Palestine. Mais toutes les fautes d'Israël qui ont été à l'origine du châtiment de ce peuple n'ont pas disparu pour autant, et c'est ainsi que ressurgit le vieux problème de la méconnaissance, du non-respect et de la non-application de la loi de Moïse. Ce manquement aux ordonnances divines fait que, d'une part, le prêtre Esdras réapparaît, et d'autre part, il prend désormais les devants de la scène. Jusqu'à là, il est probablement retourné en Perse, tandis que Néhémie dirige la reconstruction des murailles. Il semble donc qu'il revient juste au bon moment, quand la reconstruction s'achève. En tout cas, à partir d'ici, les rôles sont renversés, et c'est Esdras qui domine le récit. Je commence à lire le chapitre 8 du livre de Néhémie en compressant le texte. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse donné par l'Éternel à Israël. Néhémie chapitre 8, verset 1er. Le livre d'Esdras relate également qu'un grand rassemblement a eu lieu au début du 7e mois pour célébrer la fête des trompettes, qui signale aussi le commencement de l'année civile. Dans les villes antiques, les places étaient généralement situées près des portes. C'est là que les habitants se rassemblaient. Tout le peuple s'amasse donc devant la porte des eaux, ainsi nommée parce qu'elle est à proximité de la principale source alimentant Jérusalem. Et puis, tout d'un coup, et sans prévenir, Esdras refait surface. Il avait été chargé par l'empereur Artaxerxès d'un ordre de mission à Jérusalem 14 ans avant Néhémie. Mais quand il arrive en Juda, les conditions morales et spirituelles des colons juifs sont déplorables. Assumant alors pleinement sa fonction de prêtre, il leur enseigne la loi de Moïse, ce qui fait que la situation générale s'améliore considérablement. C'est d'ailleurs sous son mandat que l'autel des holocaustes, puis le temple, sont restaurés. Cette reconstruction est suivie d'une première tentative de relever les murailles, mais elle suscite une telle levée de boucliers de la part des populations environnantes que le projet capote. Ce qui est partiellement reconstruit et démoli par les Samaritains, et même des portes d'entrée de la ville qui étaient encore en bon état sont brûlées. C'est l'arrivée de Néhémie qui relance le projet de reconstruction, tandis qu'Esdras, comme je l'ai déjà dit, est sans doute allé rendre compte de sa mission à l'empereur en Babylonie, où il a probablement repris ses activités auprès des exilés jusqu'à ce qu'il décide de revenir en Juda, et nous le retrouvons. Peu après la fin de la reconstruction des murailles, le premier jour du 7e mois, à l'occasion de la fête des trompettes, le peuple prend l'initiative et demande à Esdras de lui enseigner à nouveau les commandements de Dieu. À cette époque, les textes de la loi de Moïse sont recopiés à la main par des scribes qui sont d'une méticulosité considérable, car ils comptent et recomptent toutes les lettres. Il y a donc très peu de copies en circulation et il n'est pas dit qu'il y en ait une dans la colonie des Juifs. En tout cas, Esdras en a une en sa possession qu'il a peut-être rapportée avec lui dans ses bagages. Tout comme Néhémie, c'est un homme d'une intégrité, à toute épreuve, qui jouit d'une grande autorité auprès des colons juifs. Ces deux hommes, l'un prêtre et l'autre laïque se complètent admirablement bien. Je continue le texte. Le premier jour du septième mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Il leur lut dans le livre depuis l'aube jusqu'à midi, sur la place qui est devant la porte des eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture de la loi, hommes et femmes, et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Esdras se tenait sur une estrade de bois dressée pour la circonstance. Néhémie chapitre 8, les versets 2 à 4. Ce premier jour du septième mois, on célèbre la plus solennelle des nouvelles lunes. C'est un jour de sainte convocation et de repos sabbatique obligatoire qui est annoncé en grande fanfare par une longue sonnerie de trompettes. C'est donc l'occasion idéale pour Esdras de lire le précepte divin, probablement tiré du Deutéronome. Ce cinquième livre de Moïse contient le deuxième énoncé de la loi qui fut donné à la deuxième génération des Hébreux, juste avant qu'ils ne pénètrent en terre promise sous la conduite de Josué. Plus loin, il est dit que la lecture faite par Esdras est commencée par des Lévites spécialistes de l'interprétation de la loi. D'après un verset que je ne lis pas, 13 hommes, sans doute des prêtres, se tiennent à côté d'Esdras, 6 à sa droite et 7 à sa gauche. D'après le texte, tous ceux capables de comprendre la lecture de la loi sont présents. Sont donc inclus les enfants de plus de 12 ans, puisque c'est à cet âge qu'ils deviennent fils ou filles de la loi, et donc responsables d'obéir à toutes ses prescriptions. Aujourd'hui, les Juifs célèbrent le rite de passage à l'âge adulte des garçons par une cérémonie qui s'appelle la bar mitzvah. Je continue le texte. Comme il était placé plus haut que tous les peuples, chacun le vit ouvrir le livre. Et à ce moment-là, tous se levèrent. Néhémie chapitre 8, verset 5. Quand Esdras a ouvert le livre de la loi, tout le peuple s'est levé par respect pour Dieu et sa parole. Et ils sont restés debout durant toute la lecture et les explications qui leur étaient données. Les rabbins prétendent que depuis le temps de Moïse, la coutume en Israël a toujours été d'écouter ainsi la lecture de la loi. Mais c'est ici la première fois que cela apparaît clairement dans les Écritures. Dans les synagogues aussi, les Juifs se tiennent debout pour la lecture de la loi. L'homme étant ce qu'il est, il est assis sur un coussin moelleux. Il y a des chances pour qu'il s'endorme. Par contre, la position debout aide à rester éveillé et attentif. Je continue. Esdras loua l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Néhémie, chapitre 8, verset 6. Esdras commence par une prière de bénédiction, à peu près comme David avait fait. Je rappelle ce passage. David loua l'Éternel devant toute l'assemblée en disant « Loué sois-tu à tout jamais, ô Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël !» 1 Chronique, chapitre 29, verset 10. En réponse à la louange d'Esdras, tout le peuple lève les mains au ciel et se prosterne à terre en signe d'adoration. Dans l'Ancien Testament, ces gestes accompagnent fréquemment les prières publiques solennelles. C'est notre Créateur qui est le centre de l'univers et la personne la plus importante. Et c'est donc à lui que reviennent la gloire et l'honneur. Quand nous prions, nous devons premièrement lui rendre grâce, le remercier et le louer, et ensuite seulement lui faire part de nos requêtes. D'ailleurs, c'est bien ainsi qu'est structurée la prière du Notre Père, que Jésus a enseigné à ses disciples. Les trois premières paroles concernent la personne de Dieu et ne prennent pas en compte mes petits besoins. Je les rappelle. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Matthieu chapitre 6, les versets 9 et 10. Je continue le texte. Alors les Lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Il lisait dans la loi de Dieu et expliquait au fur et à mesure de façon posée et distincte, afin que chacun puisse comprendre ce qu'il avait lu. Néhémie chapitre 8, les versets 7 et 8. Esdras fait la lecture de la loi en hébreu, mais elle est certainement traduite en araméen, langue devenue usuelle parmi les Juifs depuis leur exil à Babylone. Ensuite, ce qui a été lu, expliqué et commenté par les Lévites. Cette lecture solennelle de la loi est la raison du rassemblement d'une foule immense de 30 à 50 000 personnes. Esdras lit une portion du texte, puis les Lévites, disséminés parmi le peuple, traduisaient et expliquent ce qui vient d'être dit. Chacun a un groupe de personnes qui s'est rassemblé autour de lui. Il y a tout lieu de penser que les gens du peuple ont l'entière liberté de poser des questions qu'ils veulent jusqu'à ce que tous les assistants aient bien compris le passage en question. Ensuite, Esdras lit un nouveau passage de la loi et le processus recommence. Ce qui s'est passé en ce jour solennel à Jérusalem, sur la place devant la porte des eaux, est un événement qui a eu des répercussions considérables et à plus d'un titre sur les Juifs de l'après-exil. En effet, c'est à cause de ce que le prêtre Esdras a fait et qui nous est raconté ici que sont nés les Targums, c'est-à-dire des traductions paraphrasées du texte hébreu de l'Ancien Testament. Les premiers furent découverts dans les caves de Qumran, aux alentours de la mer Morte, et datent du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il existe des Targums sur tous les livres de l'Ancien Testament, sauf sur ceux d'Esdras, Néhémie et du prophète Daniel. En plus des Targums, les conditions dans lesquelles se sont faites les lectures et l'explication de la loi par Esdras ont fourni les éléments essentiels de ce que sont encore aujourd'hui les cultes des Juifs dans les synagogues. Les Israélites se sont fortement inspirés d'Esdras, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, pendant le culte juif, des portions de l'Ancien Testament sont lues puis expliquées. On lit des formules liturgiques qui appellent une réponse des assistants. Les prières sont faites en levant les mains au ciel et on adore Dieu en se prosternant. Cette lecture systématique de la loi haut et fort, verset par verset, comme Esdras l'a fait, est un moyen pédagogique d'enseignement qui a bien des mérites et qui vaudrait la peine d'être utilisé au moins de temps en temps dans nos églises. Peut-être qu'une telle pratique encouragerait les paroissiens à s'intéresser davantage aux Écritures. Au final, dans une réunion de culte, peu importe la puissance de la voix du soliste, le doigté de l'organiste et la prouesse littéraire du prédicateur, ce qui compte vraiment est que les gens entendent la parole de Dieu distinctement, la comprennent et soient motivés pour la mettre ensuite en pratique. Je continue le texte. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie le gouverneur, Esdras le prêtre et spécialiste de la loi, et les Lévites qui donnaient les explications au peuple dirent à tous: « Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre deuil. » Néhémie, chapitre 8, verset 9. La lecture de la loi a fait son effet. Les Israélites se rendent compte qu'ils ont violé les commandements divins en long, en large et en travers, et éprouvent un remords salutaire. Un début de la parole de Dieu est de conduire à la repentance celui qui la lit ou l'écoute. Dans sa seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « La tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas. » 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. C'est exactement ce qui est arrivé à la foule massée pour écouter Esdras. La réaction du peuple ressemble en grande partie à ce qui s'est passé en Juda sous le règne de Josias. Quand on retrouva le livre de la loi et qu'il fut lu, comparez 2 Rois chapitre 22, les versets 8 à 13. La fête des trompettes n'est pas destinée à être une période de lamentation, mais un temps de réjouissance qui aurait dû conduire le peuple à rendre des actions de grâce à l'Éternel. Mais comme ce jour de fête devient un jour de larmes, les responsables du peuple tentent de le replacer dans son contexte originel, qui est de célébrer l'Éternel dans la joie. Dans le livre de l'Ecclésiaste, le roi Salomon écrit « Il y a un temps pour tout, un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Ecclésiaste chapitre 3, les versets 1, 2 et 4. Je continue le texte. Puis Esdras ajouta, « À présent, allez faire un bon repas. Buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que l'Éternel donne est votre force. » De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu. Ne vous attristez donc pas. » Néhémie chapitre 8, les versets 10 et 11. Comme les Orientaux pleurent à grand bruit, la foule qui se lamente doit représenter un mur de lamentation à elle-même. Mais le moment est mal choisi parce que la loi de Dieu retrouvée est une grâce, donc un sujet de se réjouir et non de se répandre en larmes. Les sentiments de désespoir et même de déprime sont des forces négatives puissantes, tandis que la joie de l'Éternel est une force de vie. Le Nouveau Testament aussi enseigne que la joie qui vient de Dieu fait partie intégrante de la vie chrétienne. Je lis deux passages. La communion dont nous jouissons est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. 1 Jean, chapitre 1er, les versets 3 et 4, Philippiens, chapitre 4, verset 4. L'une des manifestations de la joie que le peuple doit exhiber lors des fêtes du calendrier religieux est le partage des biens matériels avec le démuni, tel qu'il est recommandé dans plusieurs passages de la loi de Moïse. Mais c'est ici, dans le livre de Néhémie, la première fois qu'on voit cette prescription mise en pratique. Je continue le texte. Alors, tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Néhémie chapitre 8, verset 12. Les Juifs ont accepté l'exhortation de leurs dirigeants et ont banni leur tristesse. Ils ont compris que l'Éternel ne désire pas de la part de son peuple une perpétuelle contrition et de constantes privations, mais qu'il prend plaisir à le voir joyeux, en fête et solidaire. Je continue. Le lendemain, les chefs de groupes familiaux de tout le peuple, les prêtres et les lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le spécialiste de la loi, pour étudier plus attentivement les enseignements de la loi. Ils trouvèrent écrit dans cette loi que l'Éternel avait donnée aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse que les Israélites devaient habiter des cabanes pendant la durée de la fête du septième mois. Néhémie, chapitre 8, les versets 13 et 14. Cette assemblée, bien plus restreinte que celle de la veille, est constituée par les responsables du peuple qui veulent continuer à étudier la loi. C'est ainsi que le second jour du septième mois, ses fidèles apprennent comment Dieu veut que son peuple célèbre la fête des cabanes ou tabernacles. Cette découverte tombe à pic parce que ça leur laisse exactement 2 semaines pour la préparer comme il se doit. La description de cette fête se trouve bien dans le livre du Deutéronome, mais de manière très succincte. Par contre, les détails sont donnés ailleurs dans le Pentateuque. Lévitique, chapitre 23, les versets 37 à 43. En tout cas, cette étude approfondie, à laquelle se sont livrés les chefs du peuple, montre que la colonie, et tout au moins Esdras, avait à sa disposition la totalité des écrits de Moïse, et pas seulement le Deutéronome. Je continue le texte. Alors ils firent publier que dans toute la ville de Jérusalem, la proclamation suivante. « Sortez dans la montagne et rapportez-en des branches d'oliviers cultivées et d'oliviers sauvages, de myrtes, de palmiers et d'arbres touffus pour faire des cabanes comme cela est écrit. » Néhémie, chapitre 8, verset 15. Le peuple doit se rendre sur les hauteurs boisées pour y chercher des branches feuillues et toutes sortes d'arbres, y compris du myrte qui est un buisson odoriférant au feuillage persistant. Je continue. Le peuple partit et rapporta des branchages. Ils se construisirent des cabanes sur la terrasse de leur maison, dans leur cour, dans les parvis du temple, sur la place de la porte des eaux, ou encore sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute la communauté des anciens déportés revenus de l'exil construisit des cabanes et se mit à les habiter. Les Israélites n'avaient plus célébré cette fête depuis le temps de Josué, fils de Noun. Ils se livrèrent à de grandes réjouissances à cette occasion. Néhémie, chapitre 8, les versets 16 et 17. Cette fête était bien célébrée depuis l'époque de Josué, Esdras, chapitre 3, verset 4, 1 Roi, chapitre 8, verset 65, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 9. Mais, du bout des lèvres, pour ainsi dire, elle n'avait jamais pris tant d'ampleur, ni donné lieu à des réjouissances, comme c'est le cas ici. Assez curieusement, rien n'est dit du jour des expiations ou Yom Kippour, qui aurait dû avoir lieu le 10e jour du 7e mois, jusqu'avant la fête des tabernacles. En fait, elle est reportée sans qu'on sache pourquoi. Je finis ce chapitre 8. Chaque jour, du premier jusqu'au dernier, Esdras lut une portion du livre de la loi de Dieu. On célébra la fête pendant 7 jours, et le 8e jour, conformément aux prescriptions de la loi, il y eut une assemblée cultuelle, Néhémie, chapitre 8, verset 18. Normalement, cette lecture de la loi doit avoir lieu l'année sabbatique, donc tous les 7 ans, à l'occasion des fêtes des cabanes. Deutéronome, chapitre 31, les versets 10 et 11. Les chefs du peuple avaient dû constater que l'ignorance des commandements de la loi de Moïse justifiait sa lecture cette année-là, même si elle n'était pas sabbatique. De plus, le rétablissement du culte de l'Éternel et la restauration des murs de Jérusalem n'ont de sens que si les Israélites sont fidèles à leur Dieu. Ce chapitre 8 de Néhémie souligne combien il est important de connaître l'enseignement de la parole de Dieu afin de savoir exactement ce que le Créateur exige de nous pour s'y conformer. Comme je le dis parfois, à bon entendeur, salut !